Chapitre 2. Il y a différentes manières à Paris de comprendre le mot matin. Pour les hommes d'études, d'affaires ou de commerce, cette idée correspond à l'espace qui s'étend depuis 8 heures jusqu'au milieu du cadran. Pour les femmes du monde, les actrices et les duchesses sans blason, le matin commence à 3 heures de l'après-midi et finit au dîner. Dalberg, qui était déjà passablement usagé, sortit de chez lui vers 3 heures, et après avoir flâné quelque temps sur le boulevard des Italiens, pour n'avoir pas l'air d'un sauvage tombant dès l'aurore dans une maison civilisée, il se rendit chez Amine, qui habitait rue Joubert, un appartement princier. Il sonna. Un petit groom fagoté en singe savant vint lui ouvrir. Il demanda son nom, puis s'enfonça dans les profondeurs de l'appartement pour aller consulter la femme de chambre. Au bout d'une ou deux minutes, le groom revint avec un air plus gracieux et accompagné de la camériste. « Ma maîtresse est encore au lit, » dit-elle à Dalberg. « Mais si monsieur veut bien excuser le désordre d'une chambre à coucher qui n'est pas faite, madame consent à le recevoir. » Dalberg fit la réponse naturelle. Et comme il y avait déjà dans le salon un visiteur moins favorisé qui attendait patiemment l'heure du lever d'Almine en lisant les journaux et les brochures, on fit traverser à Henri un cabinet encombré d'aiguières, d'argent, de jade de porcelaine du Japon, de brosses, de lime, d'éponges, de gants amassés et de tous les raffinements de toilette qu'ont inventé dans tous les temps et dans tous les pays la coquetterie et la richesse amoureuse d'elle-même. Derrière un paravent fumait l'eau tiède encore d'une baignoire garnie d'un fond de toile de Hollande. Çà et là étaient jetées négligemment quelques-unes de ces belles serviettes damassées algériennes qui boivent si parfaitement la sueur dans les étuves mauresques et avec lesquelles les femmes d'Amine avaient séché sur son beau corps les dernières perles du bain. Peut-être trouvera-t-on que faire traverser à un homme sur qui l'on a des intentions cet atelier de beauté qu'on nomme un cabinet de toilette est de la part d'une femme aussi exercée qu'Amine un manque de tact et de convenance. Ne risque-t-elle pas de se dépoétiser aux yeux même de celui qu'elle voulait charmer? Ou bien pensait-elle que ses recherches de sultane ou d'impératrice romaine, que ce culte excessif de soi-même était un moyen de séduction, les hommes étant toujours flattés des efforts faits pour leur père? Il faisait à peine jour chez Amine. Une veilleuse agonisait dans une lampe d'albâtre suspendue au plafond et jetait des reflets vacillants qui faisaient vaguement miroiter dans l'ombre des dorures rocailles des ventres de potiches et des angles de cadre. Dalberg fit quelques pas en hésitant. Ses yeux, accoutumés à la vive clarté du dehors, ne pouvaient encore rien distinguer dans cette demi-obscurité. « Allô, Annette, ouvrez les rideaux et enlevez la lampe, il fait jour, je pense, » dit Amine à sa camériste. Un torrent de lumière entra dans la chambre, et un joyeux rayon de soleil se mit à sauter le long des murs comme une folle levrette enfin admise auprès de sa maîtresse. « Ah, c'est vous, monsieur Dalberg. Vous êtes venu hier à ce qu'on m'a dit. Combien je regrette de ne pas m'être trouvé là. Mais qui aurait pu me prévoir que vous m'honoreriez de votre visite ?» dit Amine avec un charmant sourire. « Il faut vraiment que je ne sois guère coquette pour vous recevoir faite ainsi. » Et en disant cela, la malicieuse créature commettait un gros mensonge, car elle savait très bien qu'aucune toilette au monde ne valait pour elle le désordre étudié où elle se trouvait. Son bonnet, garni de dentelles, gisait à côté de sa tête. Sa chevelure soyeuse se répandait en boucles lustrées sur la blancheur du drap, elle laissait voir une petite oreille délicatement tourlée et rose comme un coquillage de la mer du Sud. Son peignoir de batiste, bordé de valenciennes et négligemment fermé, lui faisait toutes sortes d'utiles trahisons. Un de ses bras, sorti de la couverture, s'allongeait languissamment sur l'ondulation de la hanche. L'autre s'arrondissait au-dessus de son front dans la pose de la Cléopâtre antique. Sans avoir oublié Calixte, Dalberg n'y pensait peut-être pas avec la même intensité qu'auparavant et contemplait Amine d'un œil sinon amoureux, du moins caressant. Le regard admiratif qu'il eût accordé à un marbre, à un tableau, il ne pouvait pas le refuser à un chef-d'œuvre vivant. Amine, satisfaite de l'effet qu'elle a fait produire, dit à Dalbert d'un ton demi-sérieux, demi-badin, « Oh, si j'avais le moindre amour-propre, je croirais que vous vous êtes enfin décidé à venir rendre hommage à mes faibles charmes. Mais un autre motif vous amène. Je ne suis pas assez jolie, sans doute, pour mériter un tel honneur. » « Madame, un pareil blasphème ne peut être dit que par vous. »« Vous êtes polie, Dalberg, mais vous ne seriez pas ici, malgré tous vos compliments, sans un certain médaillon que vous grillez de ravoir et que je ne vous rendrai pas. »« Ne vous faites pas plus méchante que vous êtes, Amine. À quoi vous servira-t-il de le garder ?»« Cela me servira à vous faire venir. » J'ai beaucoup de plaisir à vous voir. Oh, ne raillez pas, je vous en prie. Mais je parle sérieusement. Qu'y a-t-il là d'étrange? Voyons, je vous donnerai une belle bague, un bracelet. Mais pourquoi faire? Répondit Amine en remuant dans un baguier placé sur un guéridon près de son lit un amas d'étincelants de bijoux. Vous l'aimez donc beaucoup, cette blonde? Est-ce qu'elle est jolie? Oh, les portraits sont toujours flattés. Jolie, répondit Dalberg en balbutiant. Non, pas absolument. De la fraîcheur, de l'ingénuité. Oui, la beauté du diable. Des couleurs de pension, les coudes et les mains rouges, dit Amine avec une petite moue dédaigneuse en avançant sa main blanche, fluette, veinée légèrement d'azur, transparente comme l'opale et dont les ongles ressemblaient à des feuilles de rose du Bengale. « Oh, quelle admirable main vous avez !» reprit Dalberg, désireux de changer le cours de la conversation, et il attira vers lui le bras d'Amine qui se laissa faire. « Les sculpteurs les plus illustres l'ont moulé. Mais il ne s'agit pas de ma main. Comment pouvez-vous aimer une blonde ?» Les blondes ont les cils blancs, les sourcils effacés, dit Amine en agitant par un mouvement rapide, pareil à celui que les Espagnols impriment à leur éventail, les longues franges brunes de ses paupières qui palpitaient sur ses joues comme des papillons noirs sur un bouquet de roses. Malgré toute sa passion pour Calixte, Dalberg ne pouvait s'empêcher de convenir que les cils d'Amine étaient longs, soyeux et d'une nuance admirable, et faisait merveilleusement ressortir la nacre bleue de ses yeux. Il répondit d'un air dégagé, « Je ne suis pas amoureux. »« Comment? Et vous portez un médaillon sur votre cœur? Ah, que feriez-vous donc si vous l'étiez? » « Oh, pur enfantillage, imitation de romans passés de mode, sentimentalité à la Werther. » Dont vous n'êtes pas corrigé, à ce qu'il paraît. Ce portrait, j'avais l'habitude de l'avoir suspendu au mon cou et j'oubliais toujours de l'ôter. Je suis sûr, tendre berger, que vous posiez dévotement vos lèvres soir et matin sur cette chère effigie, ainsi que cela doit se faire sur les bords du Lignon. Amine, vous me croyez pas trop pastoral. « Oh, je sais, vous êtes un monstre. Vous avez fait une infinité de malheureuses et commis 20 roueries, plus scélérates les unes que les autres. Allez, ne me raillez pas si cruellement et faites-moi donner cette miniature à laquelle j'ai la faiblesse de tenir. Mais personne, excepté vous, n'a jamais pensé dans cette chambre à une autre femme que moi. Alors, c'est bien. Je vois que je suis devenu laide. » dit Amine en se retournant dans son lit. Dans ce mouvement, son peignoir glissa sur son épaule et elle ne le rajusta pas tellement vite que Thalberg ne put être convaincu que le temps de déployer des talents et des qualités morales n'était pas encore arrivé pour ce démon à peau satinée. Henri n'avait pas étudié Escobar et son traité des compositions de conscience, mais il n'était pas très éloigné de racheter le portrait de Calixte à un singulier prix, se fondant sur la légitimité de l'intention. Les œillades qu'Amine lui avait lancées au souper des frères provençaux, la façon dont elle l'accueillait avec un sens trop clair pour qu'on puisse y méprendre. Il fut donc inutile et même dangereux d'insister davantage sur la restitution du portrait, craignant d'éveiller la jalousie feinte ou réelle d'Amine, et sachant la haine envenimée qu'ont les anges dits en bas pour les anges d'en haut. Il n'aimait pas Amine, mais elle exerçait sur lui en ce moment la fascination de tout ce qui est charmant et perfide, brillant et glacé, la fascination de la fleur vénéneuse qu'on ne peut s'empêcher de cueillir, du serpent dans la gueule duquel l'oiseau vient s'engouffrer, frissonnant de plaisir et d'horreur. La corruption a des attraits inexplicables même pour les âmes les plus honnêtes. Sans trop se rendre compte de tout cela, Henri s'était rapproché d'Amine et ne parlait plus du médaillon lorsque la femme de chambre, soulevant une portière, arriva près du lit et se penchant vers sa maîtresse, lui chuchota cette phrase « Mademoiselle Florence est là, qui voudrait parler à madame. » Mais il fallait dire que je n'y étais pas. Mais il y avait déjà du monde au salon et madame ne m'avait pas dit qu'elle voulait se sceller. Oh, décidément, Annette, tu baisses. Une soubrette d'esprit entend à demi-mot. Mais bon, puisque la sottise est faite, laisse-la entrer. Qui peut nous valoir cette visite de Florence et d'où lui vient cette amitié subite ? Dit Amine en fixant son regard sur Henri. Florence entra et, d'un rapide coup d'œil, se rendit compte de l'état de la chambre et de la situation des personnages. Ce ne fut qu'un éclair, mais une expression plus sereine se répandit sur sa figure, et après avoir salué Amine, elle fit une révérence gracieuse à Thalberg, qui s'était retiré un peu à l'écart. « Mais voilà une aimable surprise !» dit Amine à Florence. « Vous êtes si rare !»« Mais mon Dieu, j'ai peur d'être importune. Que faites-vous aujourd'hui ?» Rien, j'avais un commencement de migraine. Je n'ai aucun projet. Je comptais rester couché toute la journée. J'essaie une nouvelle voiture et une paire de chevaux neufs. Voulez-vous venir faire un tour au bois de Boulogne avec moi ? Volontiers, je vous demande un quart d'heure pour m'habiller. Regardez un peu dans la rue, monsieur Thalberg. Je vous en prie, ou passez dans une autre pièce. Dit Amine d'un ton de pudeur fort peu alarmé, en se laissant glisser sur le tapis d'Hermine étendu devant son lit et en fourrant ses pieds mignons dans les pantoufles doublées de cygne que lui présentait sa camériste agenouillée. « À propos, dit Florence, vous avez sans doute rendu à M. Thalberg le médaillon que vous lui avez enlevé par plaisanterie. »« Non, pas, non, non, je le garde pour le taquiner. » Un léger pli contracta le front de Florence, qui reprit aussitôt « Et vous connaissez le nom de la personne qui le représente ?»« Pas encore, mais je le saurai. » Une imperceptible rougeur monta aux joues de Florence. « Et pourquoi faire ? » dit-elle d'un ton négligent. « J'ai des dispositions à détester les gens qu'aime M. Thalberg. » « Mais c'est un aveu, cela !» « Oh non, non, je suis jalouse, sans être amoureuse. »« Alors vous pouvez reparaître, » dit Amine, en élevant la voix. « Je suis habillée, de façon à ne plus alarmer votre candeur. »« Mais si monsieur veut nous accompagner, » dit Florence, « il y a une place pour lui. »« J'accepte avec reconnaissance, » répondit Thalberg en s'inclinant. Et il suivit les deux femmes, sans trop savoir s'il était content ou fâché, et si l'arrivée de Florence avait été opportune ou intempestive. Quant au monsieur installé dans le salon, Il avait fini sa dernière brochure lorsqu'Annette vint lui annoncer qu'Amine, ayant une migraine atroce, ne se lèverait pas de la journée. En apprenant cette fâcheuse nouvelle, il prit son chapeau et dit « C'est pas étonnant, le vent d'Est souffle depuis 2 jours. » À cette profondeur d'observation, on aura reconnu le personnage météorologique du souper. C'était lui, en effet. Maintenant, pour quelle raison Florence était-elle venue précisément ce jour-là, à 7 heures, chez Amine, qu'elle ne visitait pas 4 fois par an, et pour laquelle, bien qu'elle s'abstint de porter des jugements sur les autres femmes, elle ne paraissait avoir aucune sympathie? Était-ce le simple hasard ou l'espoir d'y rencontrer Dalberg, et le désir d'arrêter à son commencement une intrigue qui lui déplaisait, pour une raison ou pour une autre? En lui supposant de l'amour pour Henri, la jalousie eût expliqué cette démarche, mais elle ne l'avait vu qu'un très petit nombre de fois, d'une manière vague, en compagnie d'autres personnes, et sans chercher jamais à faire naître des rapports plus fréquents. D'ailleurs, Florence était une vertu relative. On n'y avait jamais connu qu'un amant, et si des mauvaises langues chuchotaient le nom d'un second, le fait n'était pas bien prouvé. Quoique par sa position même elle ne pût être reçue dans le monde, Florence possédait tout ce qu'il faut pour y briller. Et, l'égalité à part, n'était pas plus indigne d'y tenir sa place que bien d'autres, abrités derrière le nom d'un mari, endosseur naturel de toute leur fredaine. La crainte qu'Amine fit un méchant usage du médaillon et ne s'en servit pour jeter du trouble dans la vie d'une jeune fille honnête et pure avait probablement déterminé Florence à se rapprocher de la maîtresse de Marcy. La voiture remontait les Champs-Élysées au trot de 2 chevaux anglais demi-sang et d'une rare beauté. Amine, enveloppé des pieds à la tête dans un grand cachemire, s'étalait sur le velours bleu des coussins, comme s'il eût été couché, saluant avec une certaine affectation les gens de connaissance qu'elle rencontrait. Elle était fière de paraître en public avec Florence, comme le serait une bourgeoise de sortir avec une duchesse ou une choriste avec un premier sujet. Chaque monde a son aristocratie, et dans ce monde-là, Florence était une princesse du sang. À l'avenue de Madrid, on rencontra Rudolphe, qui faisait une promenade à cheval, et parut assez étonné de voir Amine avec Dalberg dans la voiture de Florence. En homme qui a l'usage du monde, il ne témoigna aucune surprise et se mit à trotter le long de la calèche, échangeant avec les femmes quelques observations caustiques sur les tournures plus ou moins grotesques des cavaliers qui filaient dans un nuage de poussière. Quel motif peut avoir la réunion de ces personnages disparates? Se demandait Rudolphe tout en cheminant du côté de la calèche occupée par Amine. La vertueuse Florence aurait-elle l'imagination préoccupée à l'endroit du jouvenceau recommandé par moi aux soins d'Amine? Voilà une auxiliaire sur qui je n'avais pas compté. 2 valent mieux qu'une. Si Amine échoue, Florence réussira. Si l'une d'elles lui déplaît, l'autre doit le charmer. Il n'y a pas moyen qu'il y échappe. Et Rudolphe, rassuré sur la réussite de ses projets, fit faire une courbette à son cheval. Amine, se penchant hors de la voiture du côté de Rudolphe, qui s'était rapproché, dit en anglais et d'un ton de voix assez bas pour n'être pas entendu d'Henri et de Florence, occupés d'ailleurs de leur conversation. « Le nom du portrait, vite !»« Calix Després, » répondit Rudolphe en sourdine, et si près de la voiture que la roue rasa presque la hanche de son hack. Un éclair de joie maligne illumina la figure d'Amine. Qui eût pensé, disait Florence à Dalberg, mais avec un doux sourire et des yeux attendris, que vous étiez capable d'un sentiment si pur? Cette religion de l'amour m'a touché. L'adresse, continua du même ton Amine en feignant d'admirer un point de vue. La rue de l'Abbaye, 7, répondit Rudolphe du bout des lèvres et courbé sur le col de sa monture. Il y a, répondit l'alberg, dans une pièce de Calderon, la dévotion de la croix, un certain chelapan, nommé Eusebio, qui n'a d'autre mérite qu'une foi profonde dans le signe de la rédemption, et qui est sauvé. Mais vous n'avez plus votre talisman, dit Florence. Le diable a tout pouvoir sur vous. J'espère, dit Rudolphe, poursuivant conversation à travers le bruit des roues et le piétinement des chevaux, que tu feras le plus mauvais usage possible de ces documents. Soyez tranquille, dit Amine. Comme on était assez loin, l'on dit au cocher de toucher vers Paris et la voiture redescendit l'avenue des Champs-Élysées au petit pas des chevaux, la mode étant d'aller doucement, mode assez sage, dans ce dédale mouvant de phaétons, de tilbury, d'américaines, d'escargots, de brougham et d'équipages de toutes sortes. Rodolphe eut fort à faire de saluer toutes les beautés de sa connaissance rencognées dans l'angle d'un petit coupé, en compagnie d'un King Charles ou d'un énorme bouquet. Florence déposa d'alberg près des chevaux de Marly et reconduisit Amine chez elle. Pour Rudolphe, il rentra dans son entresol de la rue de Provence, et après dîner, comme il n'avait rien à faire, il joua 4 heures de suite à la bouillotte, des parties sèches, c'est-à-dire où aucun argent n'était engagé, avec des amis curieux comme lui de ne rien perdre de leur force. D'Alberg, qui devait une visite de digestion à M. Després, était allé changer de toilette, se trouvant trop bien mis. Sa chemise, brodée et ornée de transparents prétentieux, fut remplacée par une autre très fine mais plus simple. À son gilet, un peu flamboyant, succéda un gilet d'une nuance modeste et plus assorti à la gravité d'une maison d'ex-notaire, naturellement amoureux d'habits noirs et de couleurs sombres. En déposant ses vêtements de Lyon, d'Alberg avait repris son ancien caractère, et quand il entra dans le salon de M. Després, à sa mise simple, naturelle et modeste, l'on n'eût pas reconnu le jeune homme qui se promenait chaque soir au bras de Rudolphe sur le boulevard des Italiens, d'un air si crâne et en soufflant au nez des femmes la fumée de son cigare. Oh, ce n'était pas de sa part dissimulation, mais retour à la vérité. Quand il alla saluer Calixte, occupé de quelque ouvrage dans l'embrasure de la croisée, il se sentit embarrassé, malgré le sourire amical et l'accueil plein de bienveillance de la jeune fille. La conscience de n'avoir plus le médaillon le tourmentait. Il lui semblait que Calixte devait deviner par intuition magnétique la perte de ce doux gage d'amour et de confiance, et par un mouvement puéril sans doute, mais que comprendront ceux qui ne rient pas des poétiques superstitions de l'âme, il croisa son habit, interposant ainsi un voile de plus entre sa poitrine et le regard de son ami. « Henri, je crois bien que vous ayez un rival, » dit en riant la jeune fille à d'Alberg. « J'ai vu hier soir, sous ma fenêtre, un personnage mystérieux. » Oui, un joueur d'orgue dont la musique faisait hurler tous les chiens du quartier. Non pas, mais un cavalier enveloppé d'un manteau couleur de muraille et le feutre enfoncé sur les yeux, qui doit être fort enrhumé aujourd'hui car il ne faisait pas chaud. Je vous conseille d'aller l'attendre demain et de le pourfendre de votre bonne lame. Oh, je m'en garderai bien, reprit d'Alberg. Oh, et moi qui avais cru éveiller votre jalousie par cette confidence. Ah, je vois que je n'y réussirai jamais. Non, Calixte, j'en vous une confiance sans borne, dit Henri, car je vous aime et de toute mon âme. Je le crois, répondit Calixte, en plongeant dans les yeux d'Henri son regard lumineux et pénétrant. La figure de Calixte, naturellement charmante, était sublime en cet instant, on eût dit que le jour émanait d'elle. Son âme jetait de si vifs rayons qu'elle était devenue visible sur ses traits par une sorte de pâleur lumineuse. « Je sens que je ne puis vivre sans vous, » dit Henri en s'inclinant sur la main tiède et moite que lui abandonnait Calixte. « Voulez-vous de moi pour mari, si votre père m'accepte ?»« Calix ne répondit pas, mais elle laissa tomber sa tête sur l'épaule de Dalberg, et quand elle la releva, ses beaux yeux étaient baignés de larmes. Monsieur Després, qui était entré à pas de loup, surprit ce groupe charmant et ne se conduisit pas en pair de comédie. Il ne roula pas de gros yeux, ne fronça pas le sourcil d'une manière olympienne. Un sourire plein de bonhomie éclaira son visage jovial, car il attendait depuis longtemps ce résultat. Et il s'avança vers sa fille et Dalberg en se frottant les mains. Henri vint à sa rencontre et le prenant à part lui dit « Monsieur Després, il faut que j'aie un entretien avec vous. » « Mais quand vous voudrez, mon garçon. Je me doute bien de ce que vous avez à me dire, mais vous êtes bien jeunes, tous les deux. Nous avons le temps, » répliqua Monsieur Després. Quelques amis de l'ex-notaire arrivèrent et l'on se mit à jouer au boston, comme dans le salon gris de C. À 10 heures, Henri se retira, le paradis dans le cœur. Il ne s'était jamais autant amusé que ce soir-là. En rentrant chez lui, comme il passait devant la loge de son concierge, un bras sortant par le vasistas lui tendit une petite lettre. Il l'ouvrit et y trouva ces mots. « Venez me prouver ce soir que vous n'aimez pas Calixte, et je vous rendrai un portrait qui n'aura plus de prix pour vous. »« Quelle heure est-il, Annette ?» dit Amine en s'étirant sur la chaise longue où il était à demi couché. « Je ne vois pas la pendule d'ici. »« Minuit bientôt, madame, » répondit la suivante, après avoir consulté un cadran niellé de fort bon goût. « Il n'est pas tard, il peut venir encore, pourvu que Rudolf ne l'ait pas emmené jouer au cercle, » se dit Amine à elle-même. « On a bien remis ma lettre, » demanda Amine une demi-heure après. « Oui, madame, oui, c'est Toby qui l'a portée. » « C'est singulier, comme la tante me rend nerveuse. Faites-moi un verre d'eau et mettez-y 3 gouttes de fleurs d'oranger. » Annette obéit et posa devant sa maîtresse un plateau garni d'un verre à pâte et d'une carafe en cristal de bohème magnifiquement taillée et dorée. Amine but à peine une gorgée et, dominée par l'impatience, elle se leva, alla à la fenêtre et, appuyant son front moite à la vitre, regarda dans la rue, faiblement éclairée par des réverbères qui avaient trop compté sur la lune, ou par une lune qui avait trop compté sur les réverbères. Chaque ombre qui passait la faisait tressaillir, espérer et désespérer. Un roulement de voiture, suivi d'un temps d'arrêt et d'un grincement du bouton de la sonnette que le silence de la nuit permettait d'entendre, lui causa une telle émotion qu'il fut obligé d'appuyer la main sur son cœur pour en comprimer les battements. C'était une femme de la maison qui rentrait. On s'étonnera peut-être de cette vivacité de sensation dans une femme blasée comme Amine, mais c'était une de ces natures que l'obstacle irrite. Dalberg serait venu, elle y aurait à peine fait attention. Il ne venait pas, elle eût tout donné pour le voir. Amine avait la fantaisie de l'impossible. Dalberg, amoureux d'elle et libre, ne lui eut rien inspiré, mais amoureux d'une autre, il lui paraissait l'homme le plus séduisant. Se substituer à une chaste image, à un rêve longtemps caressé, faire tourner la tête à quelqu'un qui la détestait, était une de ses plus âcres jouissances. Elle voulait, pour sa statue, le socle d'une idole renversée, et pour seul à son temple, les décombres d'une passion. Tout amour pour une jeune fille vertueuse, pour une femme du monde honnête, excitait chez elle une jalouse fureur. Soit qu'elle se regardât comme dédaignée tacitement par un choix de cette espèce, soit qu'elle pressentît dans de tels amours de pures délices, de chastes voluptés, de séraphiques extases qui lui étaient à jamais interdites et qu'elle regrettait confusément. Faire trahir Calixte par Dalbert eût été pour elle le triomphe le plus flatteur, et au trouble mal déguisé de jeune homme, lorsqu'il était venu chercher le médaillon, elle avait cru y réussir, et peut-être eût-elle accompli son projet sans l'arrivée de Florence. Pendant qu'Amine s'impatientait, Dalberg, de son côté, était en proie à la plus vive anxiété. Le nom de Calixte, souligné avec affectation par Amine, présageait de la part de celle-ci toutes sortes de malices diaboliques. Et d'abord, comment avait-elle pu le savoir? Calixte ne sortait que rarement, n'allait que fort peu au spectacle, et devait être aussi inconnu dans le monde où vivait Amine que s'il eût été enseveli au fond d'un cloître ou d'un harem en Portugal ou en Turquie. Il y a souvent 1000 lieues d'un quartier de Paris à l'autre, et l'on ne rencontre pas plus certaines espèces hors de certains milieux qu'on ne voit de poissons nageant sur les grandes routes. Jamais Amine n'avait mis le pied à Saint-Germain-des-Prés, ni au Luxembourg, seuls endroits fréquentés par Calixte. Jamais il n'était arrivé à l'élégante courtisane de traverser la rue de l'Abbaye, où elle aurait pu entrevoir, derrière la vitre, le délicat profil de la jeune fille travaillant à quelque ouvrage de filet. Il fallait donc que ce nom lui eût été dit par quelqu'un, mais par qui? Les 5 ou 6 personnes qui allaient chez M. Després étaient des gens de 50 à 60 ans, d'anciens avoués retirés, des ex-notaires, hommes graves, mariés, pères de famille ou vieux garçons à gouvernante, qui ne dépassaient les ponts que dans les occasions solennelles et n'avaient aucune acquaintance avec les princesses d'opéra et de petit théâtre. Le mystère restait donc impénétrable pour lui. Il ne pouvait avoir été trahi par aucun confident, car il s'était caché de son amour plus que d'un crime comme d'un ridicule. Ce n'est pas Rudolphe à De Marcy, à Châteauvieux, qu'il eût été se vanter de son amour platonique pour une petite fille de province. Ces messieurs, qui professaient des doctrines très positives sur cette matière, eussent poursuivi de rires inextinguibles et criblés de sarcasmes et de quolibets le malheureux Cockney, capable de sentiments si bourgeois. Cependant, le portrait de Calixte n'en était pas moins dans les mains d'Amine, et Dalberg la connaissait assez pour s'attendre à quelques scandales au cas que l'alternative posée par la lettre resterait sans réponse. La situation était des plus embarrassantes. Ne pas aller chez Amine, c'était s'exposer à toute la rancune de son orgueil blessé, et y aller, c'était trahir Calixte, cette chaste enfant dont tout à l'heure encore il pressait la main confiante. Mais que faire? Il hésita longtemps. Un véritable roué se fut décidé tout de suite, sauf à établir en cas de besoin une distinction subite entre l'âme et le corps, entre les passions du cœur et les caprices de l'esprit. « Allons, je reste, » se dit-il en se déshabillant. « Quand Rudolphe sera cela, c'est pour le coup qu'il se moquera de moi. Mais je penserai à Calixte et ses plaisanteries glisseront sur moi comme la pluie sur une touine imperméable. Demain, je m'excuserai auprès d'Amine d'une façon quelconque. J'aurai passé la nuit à jouer. Je ne serai rentré que le matin. Je l'abuserai quelques jours et quand je serai marié, je n'aurai plus rien à redouter d'elle. L'original me consolera d'avoir perdu la copie. Et si elle veut faire quelque noirceur, j'aurai le droit de défendre ma femme. » Un peu rassuré par ce raisonnement, Dalberg se coucha et finit par s'endormir d'un sommeil peu profond et traversé de rêves où l'image d'Amine, l'œil languissant, les joues colorées d'une légère vapeur rose, le cou noyé dans un oreiller de dentelle, lui présentait le médaillon de Calixte. « Comment me trouves-tu, Annette ?» disait de son côté Amine à sa femme de chambre. « Suis-je vieillie? Ai-je quelques rides, quelques taches, quelques défauts dont je ne sois pas aperçu? Allez, tu peux être franche. » « Mais madame n'a jamais été si bien que ce soir, » répondit Annette d'un ton admiratif. « Oh, je lui trouve les yeux d'un lumineux particulier. » « C'est le feu de la fièvre, l'impatience, la colère. » « 2 heures, oh, il ne viendra pas. Mais je n'y conçois rien. Pourtant, ce matin, sa voix tremblait. Il rougissait, il pâlissait. Il me trouvait belle, j'en suis sûr. Oh, quelle idée me traverse l'esprit. Si ce langoureux personnage à médaillon ne couchait pas chez lui, si j'avais deux rivales au lieu d'une à combattre, deux, c'est trop facile. L'amour exclusif est donc une chimère. Oh, ce petit Dalberg me déplaît déjà beaucoup. Pauvre Calice, j'ai bien envie de lui laisser pour la punir d'un tel choix. Si Rudolf ne m'avait recommandé, je m'en occuperais plus aujourd'hui de ce jouvenceau ridicule. Au bout de ce monologue, Amine se mit mettre au lit et tourna nonchalamment les premiers feuillets d'un roman nouveau, moyen efficace qui ne tarda pas à produire son effet. Le volume roula bientôt sur le tapis, en dire le titre serait une cruauté inutile. Le lendemain, Rudolf vint voir Amine, qu'il trouva d'assez mauvaise humeur. Elle avait envoyé le matin Toby aux informations, et le résultat du rapport de l'intelligent émissaire était que Dalberg avait reçu la lettre et dormi vertueusement dans son domicile authentique. « Il me dédaigne pour une petite poupée de pensionnaire. Quel vandale !» dit Amine en coquetant devant une grande glace où elle pouvait s'admirer des pieds à la tête. « C'est une conduite de Huron et que tu lui feras payer cher !» répondit Rudolf. « Il m'a manqué, gravement. Il est naturel que je me venge. Mais vous, quelle raison avez-vous de lui en vouloir? Vous lui vendez vos chevaux fourbus? Quand vous avez besoin d'argent, vous jouez une partie avec lui? Vous lui mettez sur les bras les femmes qui vous ennuient? Mais c'est un vrai pilade. Non, je ne lui en veux pas, mais la vie que je mène me fatigue. Et je sens le besoin de devenir un homme sérieux. Et Mademoiselle Després, d'illusionner sur le compte de Dalberg, pourrait faire la fortune de quelques garçons spirituels. Oui, mais incapable d'être député, enfin de vous, par exemple. Pourquoi pas? Je suis mûr pour la politique, j'engraisse. Et vous devenez chauve. Mais vous ne m'aviez pas dit que vous connaissiez particulièrement Monsieur Després, sa fille? « Oh, j'ai été 5 ou 6 fois chez M. Després pour affaires, mais Dalberg n'en sait rien. M. Després, sous des apparences modestes, est très riche. Calixte aura 500 000 francs de dot. »« Peste, le chiffre est gracieux. Oh, je ne m'étonne plus que Dalberg ne vienne pas au rendez-vous qu'on lui assigne. Son innocence l'emporte sur votre rouerie. Une dot d'un demi-million ? Vous a-t-elle jamais donné son portrait? Hélas, non, le prince est de poésie pour les jeunes héritières. Mon pathos est trop limpide, cela me nuit. Et vous vous êtes posé comme prétendant? Non pas, je me serais fait haïr subitement tout vif. J'ai salué froidement Calix, qui ne me reconnaîtrait pas, j'en suis sûr. Il fallait d'abord détruire le Dalberg. Homme profond, je comprends maintenant pourquoi vous m'engagiez à l'attacher à mon char, comme dirait un galant du directoire. Vous vouliez le déconsidérer. C'est flatteur pour moi, merci de la préférence. Ben oui, j'aurais eu soin de préparer quelques rencontres fortuites. Monsieur Després et sa fille se trouvent nez à nez avec Monsieur Henri Dalberg en compagnie de Mademoiselle Amine. Quel tableau enchanteur! Oui, et peu conjugal. Mais le portrait vous évitera tous ces frais de mise en scène. Oui, je vous servirai tout en me vengeant. J'ai maintenant un vif intérêt dans l'affaire. Et si j'épouse Calixte, Mademoiselle Amine recevra pour son billet de faire part 25 chiffons de papier signés Gara. Amine et Rudolf étaient bien faits pour s'entendre. Et le marché fut aussitôt conclu. Ils s'étaient aimés, jadis, oh, si ce n'est pas profaner un tel mot, pendant 6 mois. Mais Rudolf avait compris qu'il ne pouvait être qu'un épisode dans la vie d'une femme comme Amine, et il s'était spirituellement effacé devant les notabilités financières et diplomatiques, tour à tour ou simultanément honoré des bonnes grâces de la jeune actrice. Il avait survécu aux différentes dynasties de Mondor, et ses libres entrées auprès de la divinité du lieu il était toujours conservé, quel qu'en fût le pontife. Rudolf plaçait l'argent d'Amine, et sur les nouvelles qu'elle surprenait aux agents de change et aux personnages, bien situés pour tout savoir, qui papillonnaient autour d'elle, il faisait des coups de bourse et réalisait des gains dont il avait sa part. Amine ne faisait rien sans ses conseils. Il avertissait des déconfitures prochaines qu'il flairait avec un admirable instinct, et la rupture précédait toujours le désastre. Il opérait les raccommodements nécessaires, blâmait les caprices nuisibles. Il était, si l'on peut s'exprimer ainsi, le directeur de cette conscience. Il ne faudrait pas croire, d'après cela, que Rudolf fût un chevalier d'industrie, pas le moins du monde. Son titre de baron, bien qu'il ne remontât pas aux croisades, lui appartenait bien réellement. On n'aurait pas pu citer de lui une escroquerie notoire. Seulement, il vivait sans fortune comme s'il eût été riche, et gagnait son argent à ce qu'il fait perdre aux autres. Le plaisir de tout le monde était son travail à lui. S'il jouait, il fallait qu'il gagnât. Il gagnait presque toujours. Non qu'il eût recours pour corriger le sort à ces filouteries d'escamotage, ignobles ressources des Grecs vulgaires. Non, il n'avait pas triché une seule fois dans sa vie. Mais il était au whist de la force de M. Deschapelles. Aux échecs, il eût tenu tête à M. de La Bourdonnais. Tous les jeux avaient été de sa part l'objet d'études profondes, de calculs mathématiques, à effrayer un astronome cherchant les livres d'une comète. En outre, comme vous l'avez vu, sous prétexte de gastrite, il restait sobre et conservait son sang-froid dans les soupers les plus turbulents. En fait de chevaux, il était si bon écuyer et si fin connaisseur qu'il aurait pu en remontrer aux jockeys et aux maquignons les plus retors. Aussi pariait-il à coup sûr. En fait de courage, il dessinait un 6, un 7 ou un 8 dans une carte blanche, cassait la petite boule qui danse en équilibre au bout du jet d'eau, mouchait une bougie sans l'éteindre et coupait une balle sur une lame de couteau à 25 pas. Pour l'épée, Grisier, Ponce et Gâtechère avaient déclaré n'avoir plus rien à lui apprendre. Son tailleur le consultait en tremblant et, loin de lui demander de l'argent, lui en eût offert s'il eût osé pour porter les habits qu'il lui faisait. Ses galanteries ne lui coûtaient que des bouquets, des loges de spectacle, des recommandations aux journalistes de sa connaissance et autres bagatelles de ce genre. Le petit détail suivant peindra l'homme. Dans son budget, il comptait son jeu pour 50 000 francs de revenus, et ainsi du reste. Un des plus grands plaisirs de Rudolf était de couler des jeunes gens. Faire estropier en duel ou par une chute de cheval quelques débutants dans la carrière de la vie élégante, puis suggérer des idées inexécutables ou fatales, tout en ayant l'air de s'intéresser paternellement à lui, semblait à ce Méphistophélès du boulevard de Gand une jouissance délicate et raffinée, digne d'un esprit supérieur. Il fallait voir les condoléances ironiques, les serments de mains affectueux qu'il prodiguait aux victimes après la catastrophe ou la ruine. Une douzaine de jeunes gens, beaux, nobles et riches, avaient déjà sombré autour de lui. Cependant, les conseils qu'il leur donnait étaient excellents. Mais pourquoi jouer quand on ne connaît pas les cartes? Spéculer si l'on n'y entend rien? Faire le gentleman rider sans savoir l'équitation? Et le raffiner en n'ayant jamais touché une épée ou un pistolet? Il fallait, selon Rudolf, qui avait raison en cela, pour être ce qu'on appelle un lion, des dons naturels cultivés avec soin. Un grand viveur étant aussi rare qu'un grand poète. Rudolf, en traversant le salon pour sortir, rencontra le monsieur météorologique qui attendait, selon son habitude, qu'Amine voulut bien le recevoir. Il avait l'air plus rêveur qu'à l'ordinaire. « Qu'avez-vous donc, mon cher ?» lui dit Rudolf en lui prenant le bras et en l'emmenant pour en délivrer Amine. « Je vous trouve le nez mélancolique aujourd'hui. » Mais vous savez donc pas que le grand Arago a prédit un été froid et un hiver chaud. Décidément, comme le disent les fourriéristes, les climatures sont détraquées. Amine sonna et se fit habiller pour aller prendre à Florence sa visite, ainsi qu'elle le devait, car dans la Bohème, la parodie des usages du monde se fait avec beaucoup d'exactitude et de rigueur. Florence habitait rue Saint-Lazare, un vaste appartement, d'un luxe sévère et d'un goût qui sentait sa grande dame. Point de futilité ruineuse, point d'étagère surchargée de petits Dunkerques encombrants. D'épais tapis, de riches tentures, des bronzes antiques ou florentins, voilà tout. Quand Amine entra, Florence repoussa vivement le tiroir d'un cabinet de laque qui renfermait quelques papiers maculés et noircis, et se leva avec un mouvement plein de grâce et de dignité pour aller au-devant de la visiteuse. Après l'échange de demandes et de réponses banales par où débute toute conversation, Florence dit d'un ton détaché « À propos, que faites-vous de M. d'Alberg ?»«
Moi, rien, » répondit négligemment Amine.
« Ah bon, je croyais que c'était un de vos adorateurs.
La blonde du médaillon, Mademoiselle Calixte, occupe son cœur tout entier. »
À ce nom, Florence tressaillit et pâlit si visiblement qu'Amine s'en aperçut.
« Mais qu'avez-vous donc, chère belle? Vous changez de couleur. »
« Non, ce n'est rien, une émotion, non, je n'ai rien pu me défendre. »«
Ah, elle s'appelle Calixte. »«
Oui, Calixte Després. Mais quel intérêt tout cela peut-il avoir pour vous ?»«
Oui, c'est vrai, je suis folle, aucun. »«
J'avais écrit à d'Alberg de venir chercher le portrait à des conditions qui n'étaient pas trop féroces, mais il n'a pas paru. »«
Il l'aime donc bien, »
dit Florence avec un soupir.
Comme vous dites cela, est-ce que par hasard vous auriez pour Henri un caprice, une passion ?
Eh bien oui, répondit Florence avec une effusion qui, si elle n'était pas sincère, eût fait honneur à une comédienne consommée. Elle couvrit sa belle figure de ses deux mains comme pour cacher sa rougeur.
Oui, je l'aime, c'est plus fort que moi. C'est la jalousie qui me conduisait hier chez vous.
« Ah, froide Florence, vous voilà donc atteinte par la flamme. Il n'y a pas de salamandre qui ne finisse par se brûler. »«
Hélas, que pourrais-je sur un cœur disputé par Amine et Calixte ?»«
Par le vice et la vertu, » dit Amine. « Ah, vous voilà bien tombée pour une fois que vous êtes amoureuse. »«
Ah, si je possédais comme vous ce médaillon !» Je le baiserai, je le foulerai aux pieds.
Et ce sont là vos façons. Peste, je suis plus calme, moi. Je le garde précieusement pour apprendre à vivre à d'Alberg. Ce n'est pas que je tienne le moins du monde à ce bel âtre de province.
Je vous croyais du goût pour d'Alberg. Je me trompais donc.
Mais moi, j'aime l'amour qu'il a pour une autre. Bon, quant à lui, il me déplaît.
Cette Calixte est donc bien jolie.
« Entre nous, oui, mais il ne faut jamais convenir en public de la beauté d'une fille sage et d'une femme honnête. Qu'est-ce qui nous resterait donc, alors ?»«
Laissez-moi voir ce portrait. Vous l'avez sur vous ?»«
Oh, il ne me quitte pas, mais après les sentiments doux que vous venez de manifester, je vous le montrerai de loin. »
Florence étendit vaguement la main, puis la laissa retomber, voyant Amine sur ses gardes.
Quelle sérénité d'azur dans ce regard et quelle candeur virginale sur ce beau front,
dit-elle avec une expression plaintivement admirative.
Oh, elle sera pas si calme tout à l'heure, je vous en réponds, et je vais lui faire joliment rougir les yeux. Avant une heure, Mademoiselle Calixte Després haïra mortellement M. Henri d'Alberg.
Et notre rival écarté, il ne restera plus que nous deux sur le champ de bataille, et vous n'aurez pas de peine à remporter la victoire, car, je le sens, je suis un adversaire indigne de vous. »
Ayant débité cette tirade d'un air de malice triomphante, elle salua Florence et sortit.
Florence la regarda s'en aller, et parut réfléchir profondément. Ce n'est pas ce que je croyais. Je sens Rudolf derrière cette intrigue. Amine est son âme damnée. Mademoiselle Després, comme si elle eût eu le pressentiment de ce qui allait arriver, était triste et soucieuse. Le matin, elle avait été à Saint-Germain-des-Prés. Son eucologe renfermait une lettre qui fut lue et brûlée avec le même soin que les autres. Cette mystérieuse correspondance semblait n'apporter à Calix que de mauvaises nouvelles et d'amères pensées, car toutes les fois que la boîte de la chaise avait reçu un de ses billets énigmatiques, la jeune fille restait absorbée des heures entières dans une méditation douloureuse. Mais jamais elle n'avait été plus abattue que ce jour-là. Ses yeux marbrés, bien qu'elle les eût lavés plusieurs fois avec de l'eau fraîche, témoignaient qu'elle avait pleuré longtemps. À peine si l'arrivée de Dalberg, que M. Després avait invité à dîner la veille, put ramener un pâle sourire sur ses lèvres dont le rose vif avait disparu. Henri lui-même était loin d'être tranquille, et bien qu'il affectât la gaieté, il dissimulait mal une préoccupation rebelle. Sans la jovialité insouciante de M. Després, le dîner eût été morne comme un repas suprême. Le brave homme jetait seul un peu de vie et d'animation dans cette mélancolie. Il attribuait d'ailleurs ce silence aux contemplations de l'amour heureux et aux pensées graves inspirées par un mariage prochain. Car Henri lui avait formellement demandé la main de Calix. Après le dîner, on fit le boston sacramentel. La soirée s'avançait. Henri semblait reprendre son sang-froid et Calliste respirait plus librement. « Peut-être, murmura-t-elle pendant que la pendule sonnait 10 heures, le danger est-il passé ?» Au même instant, les portes du salon s'ouvrirent avec fracas et un grand laquais, vêtu d'une livrée que Dalberg reconnut aussitôt, s'avança vers le père de Calix, tenant une boîte et une lettre, et dit d'une voix retentissante « Pour remettre à M. Després en main propre de la part de Mademoiselle Amine de Beauvilliers. Oh, le mauvais ange l'emporte !» soupira Calix en versant sur le bord de son fauteuil sa tête décolorée.